Du monde dans le studio de Radio Royan Vercors ce matin pour évoquer un sujet qui gratte, un sujet qui indigne, un sujet qui met en colère des habitants et des habitantes du territoire du Royan. Les caméras de vidéosurveillance qui commencent à pulluler sur notre territoire, d'abord à Sainte-Eulalie et puis très bientôt à Saint-Jean-en-Royan. Et pour en parler, je reçois Joël, Carole, Jean-Christophe, Neil et Sylvia. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Royan Vercors Collectif Citoyen et ce sujet vous met en colère et vous avez sollicité un média qui est disponible pour tous les habitants et habitantes pour vous exprimer sur ce sujet. Donc ouvrons le débat d'abord avec Joël Gaillard et Jean-Christophe Dotti. Vous parlez tous les deux au titre d'élu, vous êtes élu sur la commune de Saint-Jean-en-Royan et vous avez un peu envie de nous parler de comment ce projet est arrivé sur la table au conseil municipal.
Bien. Donc, le lundi 29 janvier 2024, le conseil municipal de Saint-Jean-en-Royan a décidé par 19 voix pour et 4 contre de l'installation de caméras de vidéosurveillance sur le territoire de la commune. Donc, ce projet, comme on le sait, est porté par la région Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez, et il est en grande partie financé par, justement, la région. Donc, dans le détail, donc 10 caméras seront installées sur le territoire de la commune, sur 5 sites stratégiques. Donc, je vous donne la répartition précise, comme ça, tout le monde est au courant. Donc, côté entrée de ville, côté zone d'activité de la roue, 2 caméras. Entrée de ville, côté route de Lente-Bouvante, 1 caméra. Le champ de Mars, 2 caméras. Place de l'Église, 2 caméras. Et les écoles, ça de la parenthèse, 3 caméras. Je passe la parole à Jean-Christophe pour nous parler de la position des élus de la liste d'opposition qui s'appelle Saint-Jean Citoyen.
Alors, donc, comme d'habitude, on va dire, on a été convoqué là pour le conseil municipal et 5 jours avant le conseil municipal, on a reçu donc les documents qui ont été présentés durant le conseil municipal. Et donc, dans ces documents, on a découvert ce projet d'installation de caméras de vidéosurveillance sur la commune de Saint-Jean.
Ça veut dire que vous n'étiez pas au courant avant?
Voilà. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. On est amené à voter, à prendre des décisions sur des sujets où on a 5 jours pour se renseigner dessus et à partir des documents qui nous sont transmis par la mairie. Voilà, uniquement. Donc là, en l'occurrence, 5 jours avant, on est informé de cette volonté de la mairie. Et on se retrouve en conseil municipal à devoir prendre position là-dessus. Et donc, nous, pour prendre position, on a besoin d'éléments pour se déterminer, pour se faire une idée de la nécessité ou pas de vidéosurveillance. Et donc, on pose des questions. Et en fait, ce qui nous est répondu, c'est que a priori, il n'y a pas de problème majeur de délinquance à Saint-Jean, mais que c'était plutôt à titre préventif, en fait. Et que, voilà, si on n'a rien à se reprocher, voilà, pourquoi pas des caméras. Si jamais il y a des événements qui se produisent, comme à Crépol, par exemple, ça pourrait permettre d'aider à résoudre des problèmes comme ça ou autres. Donc voilà, essentiellement, c'est le côté préventif qui nous est donné comme argument, quoi. Donc, là-dessus, on a estimé qu'on n'avait pas suffisamment d'arguments pour se prononcer, donc on a voté contre. Et entre-temps, on a consulté la gendarmerie de Saint-Jean, qui nous a expliqué qu'il y avait eu un dossier qui avait été monté par un gendarme spécialisé là-dessus de Valence, qui a collecté les informations concernant la commune de Saint-Jean, sur les problèmes de sécurité, on va dire, et donc qui a présenté à la mairie, on va dire au conseil municipal, ce dossier qui fait une centaine de pages apparemment, et qui aborde tous les aspects du dossier, donc fonctionnement du système, implantation des caméras, qui c'est qui va consulter les données, le coût de l'ensemble, enfin bref, un dossier complet, quoi. Et donc, évidemment, ce dossier, on n'a pas eu accès, puisqu'on a appris fortuitement, en interrogeant la gendarmerie, qu'il y avait ce dossier à mairie, et qu'on aimerait bien consulter.
Donc qu'on soit bien clair pour les gens qui nous écoutent, ce dossier qui permet d'avoir plus d'informations sur comment ces caméras vont être mises en place, le coût, à quoi ça sert, ce dossier-là, vous n'y avez pas accès en tant qu'élu de l'opposition?
Ben, en fait, je ne sais pas. Du coup, j'ai fait une demande au maire pour pouvoir le consulter en tant qu'élu et j'attends une réponse.
Mais voilà. Le conseil municipal est déjà passé.
Tout à fait.
Et le vote a déjà eu lieu.
Voilà.
Mais vous n'aviez pas, avant le conseil municipal, accès à ce dossier.
Voilà. Il aurait fallu, au à minima, que durant le conseil municipal, ce dossier nous soit présenté et qu'on puisse se fonder là-dessus pour décider.
La seule information qu'on a eue, en fait, c'est le coût de l'opération pour la mairie, qui est de l'ordre de 7000 euros. C'est la seule information qu'on a eue sur la partie technique, sur l'utilité, on n'a aucune information.
Et donc, concernant le financement de ce projet, sur un budget de 39 000 euros, il y en a la moitié qui est pris en charge par la région, plus d'un quart qui est pris en charge par l'État et moins d'un quart qui est pris en charge par la commune. Donc, au final, ça représente quand même 7 000 euros pour la commune de Saint-Jean.
Ce qui est un argument pour les élus de la majorité, de dire ça ne coûtera pas trop cher à la commune, donc pourquoi s'en priver?
Voilà, exactement. C'est ce qui nous a été répondu. De toute façon, c'est largement financé, ça ne coûte pas très cher pour la commune, donc pourquoi s'en priver?
Donc ce que vous déplorez, c'est que ça a été assez technique, mais que sur la question des objectifs d'un tel dispositif, tout ça, il n'y a pas eu d'échange finalement entre vous et au sein du conseil municipal, qui est quand même l'instance démocratique pour tout ce qui se passe sur la commune, il n'y a pas eu d'échange entre vous.
Voilà, on a essayé de poser des questions justement sur la justification, mais très rapidement, on nous a fait comprendre que non, c'est que c'est normal maintenant de nos jours, avec la technologie qui est disponible, d'utiliser ces outils technologiques, c'est le bon sens, c'est la normalité, et c'est ce que m'a dit d'ailleurs le gendarme que j'ai contacté là sur Saint-Jean. Il m'a dit que fallait vivre avec son temps et que c'était complètement normal. Maintenant, qu'il y a de la vidéosurveillance
Oui, en fait, le projet a été présenté comme une évidence, donc qui n'a pas lieu à débat.
Donc une évidence de la modernité, de vivre avec son temps. Pourquoi s'en priver puisque c'est financé? Et vous, vous êtes là pour interroger le sens, le fond et la question plutôt idéologique et politique derrière un tel projet.
Voilà, tout à fait. Du coup, nous, notre position là, pourquoi est-ce qu'on a voté contre? C'est d'abord parce qu'on estime qu'on n'a pas les éléments suffisants pour se prononcer. Ensuite, on considère que c'est une atteinte aux libertés individuelles et que c'est un choix de société qui est trop important pour être pris comme ça à la légère, qu'il faut au minimum se concerter avec les habitants, informer là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Ensuite, on estime aussi que le sentiment de sécurité ou d'insécurité dans un petit village comme le nôtre, ça se gère plutôt par la lutte contre la solitude, par la rencontre entre les gens, le lien social, la vie associative, sportive, festive ou culturelle. Et que c'est surtout ça qui permet de lutter contre les problèmes d'incivilité, de délinquance ou autre. Et ensuite, on nous a dit évidemment, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi pas de caméra? Nous, on considère que même si on n'a rien à se reprocher, la vidéosurveillance, ça favorise une société qui devient de plus en plus surveillée et qui grignote les libertés individuelles. Et enfin, on considère que les 7000 euros là, du budget pour l'installation des caméras pourraient être utiles à bien d'autres choses sur la commune, par exemple pour l'habitat, le commerce de proximité, le développement des déplacements doux ou beaucoup d'autres projets qui auraient plus de sens.
Oui, ça, des idées pour dépenser de l'argent public, ça, vous en avez, on n'en doute pas. Mais il s'agit bien d'une opposition, finalement, de projet de société, au fondement même de ce qu'on veut pour le monde dans lequel on est, quoi.
Qui se voilà, pose. Tout à fait.
Et historiquement, il me semble que les caméras de vidéosurveillance existent dans pas mal de communes. Alors, on voit ça plutôt dans les grandes villes, mais de plus en plus, ça se développe en ruralité. Neil, toi, tu as un peu des éléments là-dessus?
Alors oui, j'ai essayé de faire un petit historique de l'histoire des caméras dans l'espace public. Et en creusant, on peut faire un mémoire avec ça, je pense. J'ai essayé d'être synthétique.
Ça doit exister un mémoire là-dessus,
oui. Oui. Il y a eu de l'encre qui a coulé là-dessus. Mais du coup, les premiers systèmes destinés à surveiller l'espace public en France a été installé à Levallois-Perret en 93 sous l'initiative de Patrick Balkany. À l'époque, ça avait été fait en dehors de tout cadre juridique. Et déjà, ça en dit long un peu sur la pratique, parce que même de nos jours, il y a toujours des caméras qui sont installées de manière hors cadre. Le but à l'époque était de lutter contre la délinquance. Suite à ça, en 95, il y a une loi qui est apparue qui soumet à autorisation l'installation des caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics. Cette loi légitime l'installation, mais aussi elle encadre le recours à cette technique. Donc on ne pouvait pas le faire n'importe comment. Et c'est intéressant parce que quand j'ai creusé un peu au niveau de cette loi, j'ai vu que le pouvoir de police qui fonde l'intervention de l'autorité administrative pour la préservation de la sécurité et de l'ordre public, elle doit s'exercer dans le principe de proportionnalité.
C'est-à-dire ?
Alors ça veut dire que faut être capable de justifier, par exemple, s'il y a énormément de vols, de délinquance, tout ça, peut-être que dans ce cas-là, on peut justifier l'utilisation de ce système-là. Et donc à l'époque, dans les années 90, la ville d'Avignon, elle avait été retoquée par le tribunal administratif. La ville avait demandé l'installation de systèmes de vidéosurveillance et donc le tribunal avait dit que c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas ce principe de proportionnalité qui était respecté. Donc je trouve ça assez intéressant quand même. Après, ça s'est un peu durci parce qu'en 2006, il y a eu la loi relative à la lutte contre le terrorisme qui a permis à l'État de développer ces systèmes-là. Ensuite, en 2007, il y a la loi relative à la prévention de la délinquance. Moi, je trouve ça rigolo, le mot prévention par rapport au système de vidéosurveillance, parce que je ne sais pas si c'est vraiment de la prévention, tout ça. Mais cette loi, elle a triplé le nombre de caméras de vidéosurveillance sur la voie publique, et l'État finance 50% des frais d'installation. Donc ça, c'était en 2007. Après, en 2011, il y a eu la loi LOPCI 2, qui concerne la gestion des forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, qui augmente la liste des motifs d'installation, ainsi que les utilisateurs de ces images. Suite à cette loi, il y a eu une commission nationale qui a été créée, chargée d'évaluer l'efficacité de la vidéo de surveillance. Ah oui, d'ailleurs, ils ont renommé le nom vidéo de surveillance par vidéo de protection. C'est moins violent, ça passe mieux en société, donc voilà.
Et c'est un peu le nœud du débat, de parler de... Eux parlent de vidéo protection, là où vous parlez de vidéo surveillance. Il y a déjà une accroche sur ce terme de quoi on parle, quoi.
Exactement, l'interprétation est tout à fait différente c'est bien là le problème. Et du coup, donc cette commission, elle avait pour charge d'évaluer l'efficacité de la vidéo de protection. Donc créée en 2011 donc le texte que j'avais trouvé qui disait là on est en 2018 et jusqu'à ce jour cette commission, elle a créé aucun rapport d'activité. On n'avait aucune information. On était à bon, super. Et suite à ça, il y a des études récentes. Je crois Sylvia et Carole vont peut-être nous en parler par la suite. Donc je leur laisse la main. Mais ça, c'était pour l'historique.
Mais j'avais quand même une question juste avant qu'on passe à autre chose. C'est cette histoire de justifier par des actes de délinquance la nécessité de mettre en place des caméras de vidéosurveillance. Là, comment ça vous est argumenté, puisque vous disiez en introduction, les élus d'opposition, qu'il n'y avait pas de justification a priori. Du coup, comment est-ce que ça peut être un recours possible pour faire annuler ça ? Comment ça ? Est-ce que c'est un levier, cette histoire de délinquance ou de taux de délinquance dans un territoire ?
Moi, a priori, je n'ai pas d'informations là-dessus, je ne sais pas du tout. Apparemment, il y a des communes ou des collectifs qui ont fait des recours, mais moi, je ne sais pas dans le détail s'ils ont eu gain de cause, sur quoi ils se sont appuyés. Moi, je n'ai pas d'infos là-dessus.
Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête, c'est que pour l'instant, sur le cas qui nous concerne ici à Saint-Jean-en-Royan, il n'y a pas de justification de taux de délinquance élevé qui justifierait la mise en place.
Voilà, tout à fait.
Et donc ?
En tout cas, on n'a pas les chiffres.
Et on n'a pas les chiffres.
Par rapport à l'efficacité de la vidéosurveillance, en fait, l'impact exclusif des caméras est difficile à isoler. C'est ce qu'on peut lire quand on fait un peu des recherches. Apparemment, elles aident à élucider que 1 à 3% des infractions ont été commises sur la voie publique. Donc, c'est pas énorme quand même. Après, les autres chiffres qu'on a envie de donner, c'est par rapport au sentiment d'insécurité. Apparemment, C'est quand même, les sondages de la décennie écoulée montrent qu'il y a une relative stabilité au niveau du sentiment d'insécurité chez les citoyens. Et au niveau des chiffres de la délinquance, ça dépend des délits, mais c'est pas non plus, il n'y a pas non plus une augmentation des chiffres de la délinquance. Donc, on se dit qu'il y a surtout un discours qui a tendance à gonfler, à interpréter et à gonfler les choses pour inquiéter la population. Donc, les caméras de vidéosurveillance, c'est quand même vraiment un choix de société. C'est un choix politique. On en fait effectivement quelque chose de banal. Comme les élus de Saint-Jean, pour eux, c'est un peu une évidence. Tout le monde en met, pourquoi on n'en mettrait pas? Ça fait partie du quotidien. Quand on va en ville, à Romans, à Valence, il y a des caméras. À Saint-Marcelin, il y a des caméras. C'est vendu un peu comme la promesse d'une vie plus sûre, plus confortable. Ça empêche les Français un peu de remettre en question, du coup, ce système qui est quand même susceptible de supprimer les libertés individuelles et collectives. En fait, ça révèle un nouvel aspect de la société qui est en train de se construire. Donc, on dit que c'est un choix de société parce que c'est quand même une réponse technologique à des problèmes sociétaux. C'est le choix d'une solution répressive plutôt qu'une solution préventive. L'argent qui est injecté dans les caméras, dans ces systèmes de vidéosurveillance, en fait, pourrait être injecté dans le social, dans l'enseignement, dans la police de proximité. Tous des secteurs qui ont été sabordés ces 20 dernières années. Et on ne peut pas... c'est du lien humain qu'il faut restaurer et ce n'est pas des caméras qui vont régler les problèmes. Les caméras, elles permettent de constater les infractions, en fait. Donc, elles ne vont pas régler les problèmes sociétaux. Et c'est une manière froide et indifférente, finalement, de régler des problèmes humains. Voilà. Nous, on est partisans de dire que ce qu'il faut faire, c'est développer, c'est remettre du lien humain là où il n'y en a plus. Et puis arrêter de discriminer, d'isoler des populations.
Moi, je veux bien rebondir, si tu le permets, sur le mot discrimination, en précisant qu'en fait, actuellement, les technologies, elles ont énormément évolué dans ces technologies de caméra, et que maintenant, il y a des logiciels qui permettent de faire des sélections automatiques de caractéristiques de tri dans les images enregistrées. Donc, par exemple, on va dire la couleur des vêtements, le port d'une barbe, la coupe de cheveux. Tout ça, le logiciel est capable de détecter et du coup, si c'est des images qui sont enregistrées, ils vont faire on rentre cette base de données et dès qu'il y aura quelque chose d'un peu suspect de ce genre-là, par exemple des gens qui portent une barbe ou une crête de punk, j'en sais rien, tout de suite, ils vont être mis en avant. Voilà, il y a ça. Il y a la détection des comportements suspects. Il y a des logiciels qui peuvent identifier une personne malgré le fait que actuellement ils se basent là-dessus, mais en même temps la police dit que les caméras ne permettent pas l'identification faciale telle qu'elle est indiquée actuellement. Elle a pas la technologie actuelle, mais donc c'est, je crois, pas une preuve si on va au niveau du tribunal, mais il n'empêche que on peut se baser là-dessus. Du moins, ça fait des suspicions ou suppositions. Toutes ces technologies, pour moi, elles posent cette question qui est fondamentale. C'est sur quelle base détermine-t-on un comportement anormal? Sur quelle base on va dire, telle personne, c'est quelqu'un de suspect, en fait.
Oui, c'est ça qui me titillait l'oreille, là, depuis que je vous écoute, avec cette question du sentiment d'insécurité, du comportement anormal, qui sont toutes des choses assez subjectives, finalement. Et c'est là où je parlais de projets de société assez différents, c'est que à ce sentiment d'insécurité, vous répondez lien humain, proximité, tissu associatif, tissu social, dépasser le repli sur soi, là où on répond par des caméras, et que du coup, pour agir sur ce sentiment assez subjectif d'insécurité, ou comme tu le disais, ça n'évolue pas tant depuis ces 10 dernières années, quoi. Mmh. Et il me semble qu'il y a d'autres exemples en France qui existent là-dessus.
Oui, donc pour illustrer un exemple parmi d'autres en France, il y a notamment un article Donc, de Le Point, ça s'appelle Le Point, L-E-P-O-I-N-G.
Comme Le Point Levé.
Point net, exactement. Et donc cet article qui s'intitule « Héros, le collectif Technopolis invite à signer un recours contre la vidéosurveillance » et qui date donc du 29 septembre 2023, donc il y a un peu moins de 4 mois et un jour, donc aujourd'hui. Donc ce texte dit « Début avril 2023, la préfecture de l'Hérault a publié en toute discrétion une série d'arrêtés pour renouveler les autorisations et étendre la vidéosurveillance à Montpellier, 7 et dans une vingtaine d'autres communes de l'Hérault. Au total, ce sont plus de 1200 caméras de surveillance, dont 600 rien qu'à Montpellier et à 7, qui ont été autorisées et ou réautorisées par le préfet de l'Hérault. Le collectif Technopolis, qui lutte contre la technosurveillance, lance une nouvelle alerte. Il dénonce l'absence de débat démocratique en amont de l'autorisation d'extension de la vidéosurveillance dans l'Hérault. Au total, ce sont plus de 1200 caméras qui sont concernées, dont 600 à Montpellier et à 7. Technopolis juge le dispositif et ses finalités disproportionnées et l'arrêté irrégulier car dépourvu de motivation. Face à l'absence continue et répétée de toute prise en compte des nombreuses critiques citoyennes et études scientifiques démontrant l'inefficacité de la vidéosurveillance, l'immense gaspillage écologique et d'argent public qu'elle représente, ainsi que sa dangerosité pour les libertés, le collectif a décidé de lancer un recours. Selon eux, les études récentes montrent que la vidéosurveillance est largement inefficace. Elle n'a tout d'abord aucun effet dissuasif sur la commission d'infraction. En 2020, la Cour des comptes relevait ainsi l'absence de toute corrélation entre la présence de caméras de surveillance et le niveau de la délinquance ou encore les taux d'élucidation. En 2021, une étude détaillée commandée par la Gendarmerie nationale concluait qu'en matière d'infraction sur la voie publique, violence, vol lié au véhicule, cambriolage, infraction liée aux stupéfiants, la vidéosurveillance n'était utile que dans seulement 1,1% des cas. Est inutile dans 98,9% des enquêtes relatives à ces infractions. Des conclusions qui regroupent celles déjà établies par des chercheurs indépendants ou par les autorités d'autres pays. De plus, le collectif dénonce une atteinte aux libertés publiques. La Cour européenne des droits de l'homme considère ainsi que tout dispositif de vidéosurveillance doit être à la fois nécessaire et strictement proportionné au but poursuivi. Difficile à défendre lorsque les études scientifiques concluent unanimement à son inefficacité généralisée. Par ailleurs, comment s'assurer de l'utilisation qui pourrait en être faite à l'avenir? Sur la place Tiananmen, en Chine, les caméras ont permis d'identifier les opposants au régime lors de manifestations. Qui pourrait affirmer qu'un gouvernement néofasciste ne pourrait jamais advenir dans notre pays? Déjà aujourd'hui, les usages liberticides de la vidéosurveillance se multiplient, tandis que de nouvelles technologies proprement dystopiques, algorithmes d'analyse comportementale, reconnaissance faciale, etc., viennent aggraver le danger de voir cet arsenal technopolicier tomber entre de mauvaises mains. Ainsi, il a notamment donc un recours à signer sur le site de technopolis.fr.
Alors, c'est vraiment éloquent en termes de fausses solutions, finalement, parce que si dans 98% des cas, ce dispositif ne sert pas à identifier les auteurs de délinquance, j'ai envie de dire une question un peu naïve, mais à quoi ça sert de mettre ces caméras?
Tout à fait.
Et du coup, il y a des dérives aussi que tu viens de souligner, Carole, avec cet article du Point. Point avec un G, si vous voulez le retrouver en ligne, et donc ce collectif Technopolis, des dérives qui vous font peur, qui vous inquiètent?
Oui, Nils déjà a parlé de la discrimination qui peut être faite dans le traitement des images, en ciblant certaines populations, suivant leurs caractéristiques physiques, vestimentaires ou leur comportement. Et il y a aussi le danger d'autocensure de la population, qui peut être amenée à modifier son comportement quand elle sait qu'elle est filmée, et donc qui sera amenée à avoir un comportement entre guillemets plus normal. Et qu'est-ce que ça veut dire donc un comportement normal?
Vous pensez à quoi quand d'autocensure? Ça peut être par exemple des manifestations, je sais pas moi, de joie ou de chant ou de regroupement collectif sur des places Ça, c'est des choses qui peuvent être... On peut s'empêcher de le faire en tant que personne qui habite sur un territoire si on sait qu'on est...
On est filmé, oui.
Qu'on est filmé, c'est ça l'idée ?
Oui, ou par exemple, dans le cas d'une manifestation qui est organisée, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, bon, ben, si la manif, elle passe devant telle caméra, j'ai pas envie d'être reconnu et fiché par les renseignements généraux, donc je vais pas aller à la manif, par exemple.
Et donc la manifestation qui a un droit pour tous et toutes, là peut-être ça y aurait quelque chose de dissuasif d'aller manifester pour des droits, quoi.
Voilà, tout à fait. Il y a des personnes qui pourraient très bien renoncer à ce droit de manifester à cause de cette possibilité qui soit reconnue par les caméras. Mmh. Et donc dans les dérives possibles, bah, évidemment, on pense tous à la Chine dont a parlé Carole. Et donc je suis allé regarder un petit peu. Et en Chine, ce qui se passe, c'est que, bon, déjà, c'est un régime ultra-autoritaire. Et ensuite, c'est une culture qui est baignée de confucianisme, qui, valorise ce qui est la vertu, on va dire, des gens. Et aussi une culture qui est baignée par le légisme, c'est-à-dire le respect des lois, des normes. Donc, c'est une population, on va dire, qui est très perméable et majoritairement d'accord avec ce système de vidéosurveillance. Et du coup, en Chine, c'est la vidéosurveillance est massive. Il y a plus de 600 millions de caméras qui sont installées dans tout le pays. Et ce système de reconnaissance avec des algorithmes très puissants est recoupé avec un système d'utilisation des données. Donc, on peut tracer les habitants avec... leur carte bleue, même leur téléphone. Et donc, il y a même mis en place un système de crédit social, ça s'appelle. C'est-à-dire que, suivant le comportement qu'on a, on peut gagner des points ou en perdre. Et suivant le nombre de points qu'on a, eh ben, on peut être, par exemple, ne pas avoir droit à un crédit dans une banque ou être interdit de prendre l'avion ou le train ou ne pas avoir droit à un emploi administratif... Ça conditionne vraiment après le quotidien de toute la population.
Un scénario digne des meilleurs films d'anticipation et de dystopie, finalement.
Oui, tout à fait.
Je trouvais ça... Bon, on n'est pas en Chine, hein, on n'y est pas encore. Peut-être qu'un jour, hélas, mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Par contre, ce qui est intéressant de soulever, c'est que la manière d'utiliser ces caméras... là-bas est différent d'ici. Actuellement, on dit, officiellement, les caméras, ça a peu d'impact, etc. Mais par contre, je pense que elles sont utilisées, même si c'est pas de manière officieuse, elles sont vraiment utilisées, ces caméras. Moi, je l'ai vu, des gens qui vivent dans la rue se faire virer très rapidement parce qu'il y a ces caméras, parce qu'il y a des vigiles derrière les caméras. Et en fait, ça, c'est pas quelque chose forcément d'officieux, mais c'est les choses qui se passent, en fait.
Et peut-être c'est une question que les auditeurs et auditrices se posent. Est-ce que vous savez s'il est prévu d'avoir des gens derrière des caméras, parce que c'est des emplois aussi. Ça, c'est des questions qui peut-être peuvent se poser.
Non, en fait, si tu parles sur Saint-Jean, c'est ça. En fait, c'est des enregistrements. Donc, s'il y a un problème d'infraction sur la voie publique, à ce moment-là, les enregistrements seront visionnés.
Donc, il n'y aura pas quelqu'un H24 derrière des caméras.
Pour l'instant, non.
Concernant Saint-Jean, si on revient vraiment à la problématique qu'on est en train de vivre en ce moment, je pense que oui, effectivement, c'est une fausse solution parce que on n'a pas le rapport d'enquête des forces de l'ordre, hein, comme on l'a dit tout à l'heure déjà. Ce qu'on sait, du moins, c'est qu'il y a quand même des cambriolages qui ont lieu dans le Royan, dans des maisons isolées. J'ai pas l'impression, en tout cas, on n'a pas eu d'infos de cambriolage ou d'infraction dans le centre-ville à proprement parler. Par contre, effectivement, dans les maisons alentours, oui. Donc, je sais pas si la caméra de la parenthèse résolutionnera ce problème. Voilà. Et ensuite, effectivement, je pense qu'on est conscient qu'il y a des soucis d'isolement quand même dans notre village. Il y a de la précarité. Et ça, je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Et on est d'accord que utiliser des caméras sous le thème de la prévention, enfin, pour moi, la prévention, c'est vraiment pas ça, quoi.
Et comment sont justifiés les endroits des 10 caméras? Donc Joël, en introduction, vous nous en parliez avec donc l'entrée de Lente Bouvante, l'entrée de l'autre côté du village, et puis la salle de la parenthèse. Est-ce qu'il y a des arguments pour dire voilà, le centre-ville doit être quadrillé?
Non, absolument pas, on n'a eu absolument aucun argument. D'ailleurs, curieusement, il n'y en a pas à place de la mairie.
Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça?
Voilà.
Rien, juste qu'il n'y a pas de place de la mairie, qu'il y en aurait potentiellement au Champ de Mars, et puis du côté de la parenthèse. Plein de questions assez finalement floues, j'ai l'impression, dans ce que vous savez, ce qu'on sait. Et est-ce que vous imaginez qu'il y a quelque chose à faire pour qu'on lève un peu les flous?
Et ben, du coup, on attend la réponse pour que les élus puissent consulter le dossier qui a été fait par le gendarme spécialisé sur le sujet. Et après, nous, ce qu'on propose, du coup, c'est de faire la réunion publique que la mairie n'a pas fait.
Il y a aussi une lettre ouverte qui est en cours d'écriture et qui va être adressée prochainement à monsieur le maire et tous les élus.
Alors, une lettre ouverte qui part de votre collectif, qui est signée par comme une pétition avec... vous essayez de réunir des centaines de signatures?
La pétition, je pense qu'on envisage de la faire après la réunion publique. Là, pour le moment, la lettre ouverte va être signée probablement par les 4 élus et le collectif. Et on est encore en réflexion à ce sujet-là. Donc on va se réunir prochainement et on espère pour l'envoyer très rapidement, tant que la pression est encore là.
Donc une lettre ouverte, une réunion publique.
Donc une réunion publique, du coup, pour informer, pour qu'il y ait un espace où débattre sur ce sujet. Donc cette réunion, on l'organise le vendredi 12 avril à la salle des fêtes de Saint-Laurent-en-Royans. Ça sera vers 19h-20h, mais on reprécisera l'horaire plus tard. Et du coup, il y a aussi une adresse mail pour le collectif. Donc s'il y a des personnes intéressées pour s'investir sur ce sujet, pour... sur la réunion publique, pour témoigner, pour ne pas hésiter à envoyer un mail. Donc l'adresse, c'est collectif en minuscule, tiré du 6, RVCC en minuscule, @mail.fr. Je reprends.
Mail, juste.
Juste mail,
ouais.
Pas Gmail, mail.fr.
M-A-I-L.
M-A-I-L.fr.
Ok. Et donc ça, c'est pour des personnes qui auraient des questions, peut-être. Là, peut-être, en nous écoutant, il y a des personnes qui se disent « mais ça, ils n'en ont pas parlé, ça me questionne ». Donc on peut vous contacter et peut-être que si vous avez les réponses, les apporter aux gens.
Voilà, complètement. Et puis aussi, en insistant sur le fait que c'est aussi si les gens ont envie de s'investir au niveau de la réunion publique pour témoigner, enfin s'ils ont des informations, ne pas hésiter à nous contacter.
Je pense aussi qu'il peut y avoir des réponses apportées sur le site donc de Technopolis, technopolis.fr, qui dit déjà en fait qu'il est question aussi d'une plainte collective qui a réuni déjà plus de 12 000 personnes en fait depuis 2018. Et en fait aujourd'hui propose
sur
une
le territoire
plainte
national.
Tout à fait,
oui.
Pour attaquer la surveillance totale de nos villes. Donc depuis 3 ans au sein de l'initiative Technopolis, nous documentons les nouvelles technologies policières qui transforment la ville. En dépit de quelques victoires locales, un constat alarmant s'impose. La Technopolis se répand de façon bien trop opaque, massive et rapide pour être suffisamment connue et débattue par la population qui, de fait, se trouve privée de ses capacités d'autodétermination. Donc, sur ce site aussi, donc Technopolis, qui a vraiment beaucoup fouillé et très impliqué donc à ce sujet donc de vidéosurveillance, il y a plein de sujets abordés et qui apportent déjà énormément, enfin beaucoup de réponses sur les questions en fait qu'on pourrait se poser en fait aujourd'hui. Et donc j'invite tout le monde à aller voir en fait ces sujets donc abordés, notamment le fichage, donc la vidéosurveillance. Allez voir quoi.
Et peut-être c'est aussi important de se dire que il y a peut-être des personnes qui se sentent un peu abattues ou en se disant bon bah de toute façon c'est massif, c'est voté, tout est déjà plié et j'ai pas voix au chapitre. Et peut-être c'est important de rappeler qu'il y a des espaces de débat, d'information et qu'on peut rester, j'ai envie de dire, actif et active sur des questions qui nous indignent, qui nous posent problème, et que tout n'est pas joué d'avance.
Tout à fait.
Et que c'est peut-être ça qui compte, quoi.
Oui, et puis c'est important de faire entendre la voix de l'opposition, c'est-à-dire on n'est pas forcément d'accord avec les décisions qui sont prises, et il faut le dire, quoi.
C'est pas une évidence, en fait.
C'est pas une évidence.
Ah oui, moi je pensais, il y avait un petit point qu'on avait oublié, mais qui me semble d'importance quand même dans les dérives possibles. Là, on commence avec 10 caméras, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. En fait, c'est, si on, c'est mettre les mains dans un engrenage, finalement, parce que ça peut être, à l'avenir, une prolifération de caméras. Et on avait un exemple, je crois que, Joël, tu avais trouvé un exemple qui est un peu en lien avec un petit village, donc ça, on pourrait similer à Saint-Jean. Hein.
Oui, effectivement, c'est un peu anecdotique. Et puis, c'est pour revenir au cadre d'un petit village. On peut citer le cas de Blénaud dans l'Yonne, qui est un petit village tranquille de 1200 habitants avec un taux de délinquance proche du zéro. Et ce village a installé 31 caméras de surveillance. Donc, ramener ça à l'échelle de Saint-Jean, ça fait, vous voyez ce que ça donne.
Trois fois plus pour moins d'habitants.
Moins d'habitants. Donc, le but, c'est en fait, c'est de rassurer les habitants. Et les seules infractions, pour le moment, qui ont été constatées, ce sont uniquement des incivilités. Et l'opération a tout de même coûté 40 000 euros.
De l'argent qui pourrait servir, on le sait,
à autre chose,
à d'autres projets. Ce qui est important, effectivement, de se dire, c'est que si tout ça vous intéresse, vous indigne, ou alors au contraire, si vous trouvez que ça se justifie, que vous avez des arguments pour, c'est intéressant de l'entendre aussi, de se dire, mais comment on peut justifier la mise en place de ce type de dispositif? Eh ben, c'est l'occasion peut-être soit de vous contacter, soit de contacter Radio Royan pour venir s'exprimer au micro. On rappelle que la radio est locale et est faite pour le débat. Donc si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Et ben merci beaucoup à tous les cinq d'être venus nous parler, nous alerter et puis informer. Je crois qu'il y a quelque chose qui passe vraiment par là, informer de nos droits, informer des dérives possibles. Voilà, mettre en cause l'évidence quoi.
Merci.
Merci Radio Royan.